Plutôt que dans sa maison, c'est dans une serre entourée de chiens et d'oiseaux que Lucette Destouches se réfugie. C'est son domaine à elle. C'est là qu'elle a accepté de bavarder avec Colette Gouvion.
En 1965, 4 ans après la mort de Louis-Ferdinand Céline, la journaliste Colette Gouvion rend visite à sa veuve, Lucette Destouches.
Est-ce que vous croyez que vous ayez, vous, ta femme, à justifier Céline? Et non, j'ai pas à plaider pour lui, il n'est pas à défendre Céline. Et on n'a qu'à le comprendre, il a voulu le bien tout le temps. Et on a essayé absolument de tourner ça le sens contraire, c'est ça que je ne comprends pas.
Dans la foulée, Lucette Destouches évoque la postérité de son défunt mari.
J'espère que, je suis sûre que dans des années, quand tous ces petits problèmes ne se passeront apaisés, des jalousies, des petites rancunes, et ça sera très simple. On le verra comme un être qui a voulu créer quelque chose et puis c'est tout.
Et puis c'est tout. Dès 1965, Lucette Destouches jette les bases de la mythologie célinienne post-mortem.
J'ai été dépouillé, dévalisé, pillé, salopé, ignominié de tous les côtés pour des gens qui n'en valent pas la peine. Je trouve que tous les autres sont coupables, pas moi. Voilà comment je pense.
Depuis sa mort, le 1er juillet 1961, la représentation de Louis-Ferdinand Céline a vécu une mutation. De quoi parle-t-on? Eh bien, au moment de ses obsèques, Céline était considéré comme un écrivain collaborationniste pro-nazi doté d'un immense talent littéraire. Et puis, au fil du temps, sournoisement, ça s'est inversé. Céline est devenu un écrivain génial, un monument national, qui, par ailleurs, fut l'auteur de pamphlets antisémites gênants pendant la guerre.
Je vais vous dire en un mot, je pense que c'est un immense poète. Et je ne mets pas de côté le scandale Céline.
Si je simplifie, on a retourné l'équation. On est passé d'un raciste doué pour la littérature à un génie des lettres taché d'antisémitisme. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors comment s'est opéré ce retournement et avec quelle motivation idéologique? C'est l'objet de ce dernier épisode.
Louis-Ferdinand Céline, vous êtes un drôle de personnage. Vous excitez les passions par vos œuvres, par vos idées, par vos attitudes. Vous dites souvent qu'on vous comprend mal. Ça serait l'occasion de vous faire mieux comprendre.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Louis-Ferdinand Céline, Le Voyage sans retour. 10e épisode, Le fantôme de Meudon.
Ça a débuté comme ça.
Est-ce qu'on peut aimer un écrivain en oubliant quel homme il a été à un moment et en oubliant certains de ses livres?
C'est une discussion très profonde parce qu'elle porte sur la morale. Un génie a des excuses, toujours.
Le plus grand écrivain du monde.
Je crois trop à l'influence de la littérature pour publier un salaud.
C'est Louis-Ferdinand Céline.
Ce qu'il a pu faire dans la vie, ça m'est égal. Il a trop de génie pour que je m'en occupe.
On est emporté par le littérateur et on est consterné par la bassesse du bonhomme.
Le récit commence à Meudon, banlieue tranquille au sud-ouest de Paris, située sur la rive gauche de la Seine. C'est là qu'est enterré Louis-Ferdinand Céline. Et c'est au cimetière de Meudon que Martine Abbat, notre reporter, avait rendez-vous avec un des descendants de l'auteur du Voyage au bout de la nuit.
Donc vous, Guillaume Grenet, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je veux dire qui vous êtes.
Moi, je m'appelle Guillaume, j'ai 52 ans. Je suis un des 9 petits-enfants de Colette Destouches-Turpin, qui était la fille de Louis-Ferdinand Destouches, Céline.
Souvenez-vous, Louis Destouches a eu une fille. Née en 1920, elle s'appelait Colette. Une fille qu'il a eue avec Édith Follet, une Bretonne, qui était donc l'arrière-grand-mère de Guillaume Grenet.
Vous l'avez bien connue, Colette?
Alors moi, je l'ai très très bien connue. Je suis l'aîné des petits-enfants. Je suis né en 71. Et vers l'âge de 6 ans, mes parents divorçaient. On habitait à Dakar, au Sénégal. Et ma mère et moi, nous sommes rentrés chez mes grands-parents. Donc j'ai habité pendant presque 4 ans, je crois, chez mes grands-parents. Donc j'ai très très bien connu ma grand-mère, que j'adorais. Et dont j'étais très proche.
Accompagné de Martine Abbat, Guillaume Grenet arpente le cimetière où est inhumée Céline, son arrière-grand-père.
Vous êtes déjà venu dans ce cimetière?
Oui, ouais, plusieurs fois. Je suis venu plusieurs fois.
Bonjour. Donc c'est par là.
Ouais,
donc là, on est à Meudon. Le cimetière s'appelle les Longs Réages.
Exactement.
C'est sur les hauteurs de Meudon, sur le coteau. Et en fait, juste au bas du coteau, c'est la maison de Céline. On n'est pas très loin.
Alors, on n'est pas loin du tout, ouais, de l'allée des gardes où ils avaient leur maison, où Céline et Lucette ont habité jusqu'à la fin de leur jour, tous les deux d'ailleurs.
Alors, à quoi ressemble cette tombe?
C'est une tombe en granit. Je suppose que ça rappelle la Bretagne.
Et gravé sur le granit, un bateau à voile.
C'est ça, c'est
un trois-mâts.
Un vieux gréement que je pense que c'est une reproduction ou une inspiration d'un dessin qu'avait fait Céline quand elle était jeune. C'est un petit dessin qui passait en salle des ventes il y a quelques années. Et donc on retrouve exactement ce style, la direction du bateau, la forme des voiles, etc. Donc je pense que c'est une inspiration de ce dessin, si ce n'est pas la reproduction exacte.
On lit Louis-Ferdinand Céline.
Son nom d'écrivain en gros en haut et en dessous,
Docteur Destouches.
Et ces dates de dans l'année 1894 et 1961.
Et puis dessous.
En dessous, Lucette Destouches, pardon, née à Almansor.
1912-2019.
C'est ça.
Lucette Destouches est morte à l'âge de 107 ans. Pour quelle raison le couple est-il enterré à Meudon?
C'est une concession qui a été demandée par Lucette, donc le jour de la mort de Céline, le 1er juillet 61. C'est purement l'œuvre et la volonté de Lucette d'enterrer son mari, Céline, près de chez elle, puisqu'effectivement, comme vous l'avez dit, on n'est pas très loin de leur maison de l'allée des gardes. C'est une concession dans laquelle il n'y a que deux places, donc dans laquelle s'était réservée la deuxième, évidemment, et c'est comme ça qu'elle a souhaité les choses. Je ne suis pas forcément certain que c'était la volonté de Céline, qui avait dit plusieurs fois que son caveau familial était au Père-Lachaise, là où il y a son père, sa mère, ses grands-parents, etc. Donc peut-être aussi que c'était un peu politique, peut-être que c'était un endroit plus calme et moins compliqué que le cimetière du Père-Lachaise pour faire l'enterrement de Céline en 61, ça ne doit pas être très simple.
Plus discret, finalement.
Plus discret, c'est ça, exactement, plus discret, plus au calme.
Qui l'entretient, cette tombe?
J'ai pas encore la réponse.
Parce qu'elle est entretenue, on voit qu'elle est fleurie.
Alors il y a des, oui, elle est fleurie, il y a des petits pots de fleurs, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de Céliniens qui se déplacent ici, parce que c'est quand même un lieu de culte pour beaucoup de grands fans et tous les Céliniens en général.
Nous retrouverons Guillaume Grenet un peu plus tard dans cet épisode. Pour l'instant, revenons en 1965, où un reporter de la télévision française s'est lancé sur les traces du fantôme de Meudon.
Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une rue Louis-Ferdinand Céline ici, à Meudon?
Ah non, monsieur, non. Non, avant, il habitait route des gardes.
Non, mais je vous demande s'il y a une rue Louis-Ferdinand Céline.
Non, monsieur, non.
Vous lisez quelquefois des romans?
Oh, quelquefois, oui.
Vous avez déjà lu Louis-Ferdinand Céline?
Oui.
Vous voyez que c'est un grand écrivain?
Ma foi, il a son genre à lui particulier, quoi.
Et après la guerre, il a eu des ennuis, je crois.
Oui, après la guerre, il a eu des ennuis.
Mais quel genre d'ennuis?
Peut-être un peu politique.
Oui.
Vous êtes certainement au courant, comme moi.
Hein? Oui, mais justement, j'aimerais que vous me le racontiez.
Oh, ma foi, vous savez. Moi, je peux rien vous dire à ce sujet-là. Je préfère rien vous dire.
À peine 4 ans après sa mort, la gêne est palpable lorsqu'il s'agit d'évoquer la mémoire de Céline. Les blessures de la France occupée sont encore à vif. Alors, quelle place occupe Céline dans cette France des années 60?
Elle est totalement marginale, parce que si vous voulez, les années 60 sont quand même politiquement les années gaullistes.
Philippe Roussin est historien.
D'autre part, c'est quand même la grande période des Nobel littéraires français. C'est-à-dire qu'il y a eu Camus en 57, il y a Sartre en 64, il y a Beckett en 69. Donc il n'y a pas beaucoup de place pour Céline. Donc entre 60 et 69, si vous voulez, c'est un peu un purgatoire. Le seul qui s'intéresse un tout petit peu à lui, c'est Tel Quel, la revue de néo-avant-garde littéraire de l'époque, surtout Philippe Solers. Et en fait, on va surtout commencer à s'intéresser aux Céline d'après-guerre, au détriment, je dirais, du Voyage au bout de la nuit, qui reste quand même le grand livre, et de Mort à crédit.
Donc, dans les années 60, Céline est au purgatoire. Mais un jeune écrivain français, Philippe Solers, futur maoïste, tente de réhabiliter Céline dans Telle qu'elle, sa revue littéraire. Écoutez cette archive de 1997, où le professeur de littérature Jean-Philippe Martin évoque le Philippe Solers des années 60.
Et je trouve donc dans un texte de Solers en 63, cette phrase « Le cauchemar historique que nous vivons a trouvé en Céline son seul chroniqueur exact. Certainement, ces livres resteront, dans un futur qui dépassera l'imagination, les seules marques profondes à garde de l'aurore moderne. » Eh bien, je dis non. Je dis qu'il y a eu Primo Levi, qu'il y a eu Robert Antelme, qu'il y a eu Charlotte Delbault, pour nous dire quel est le cauchemar de notre siècle, et que ce n'est pas quelqu'un comme Céline qui a fui avec les collabos à Sigmaringen. Sigmaringen, vous savez, nous sommes entre nous, là. Alors, pour nous, c'est évident, tout ça. Hein. Nous lisons tout ça, nous le savons bien. Mais moi, j'ai affaire constamment, tous les jours, à des gens qui ont 20 ans, qui ne le savent pas, et qui ne savent même pas ce que c'est que Sigmaringen. Alors, je demande quand même qu'on fasse attention à ça. Donc, je dis, moi, que lorsque je vois des livres s'aligner, où l'on passe son temps, son énergie intellectuelle à justifier Céline, à réhabiliter Céline, eh bien, il y a de l'intelligence qui est gâchée.
De l'intelligence gâchée. Le débat est lancé. D'autant que durant les années 70, l'image de Céline va encore évoluer. D'abord, sa trilogie allemande, c'est-à-dire D'un château l'autre, Nord et Rigaudon, bénéficie d'une canonisation littéraire.
Les trois romans de la trilogie paraissent dans la Pléiade en 1974. C'est le premier grand œuvre d'Henri Godard, bon, qui publie une édition digne de ce nom.
Henri Godard est professeur de littérature et spécialiste de Céline.
Mais 74, c'est aussi le début de ce qu'on appelle alors la vague rétro.
Je veux rentrer, moi, qui ?
Tu es trop jeune. On a déjà bien assez de monde comme ça.
Donc, Lucien Lacombe de Louis Malle, c'est-à-dire comment, au fond, quand vous avez 18 ans, en 44, vous pouvez verser aussi bien du côté de la résistance que du côté de la collaboration.
Police allemande.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Papier.
Vous avez Portier de nuit de Lilia Cavani. Quelques années auparavant, vous avez eu... Donc, ce sont des films. Vous avez eu Le chagrin et la pitié, en 69, qui explique que, contre la légende résistentialiste, tout le monde n'était pas résistant. Bon, c'est l'après-gaullisme.
Donc, durant les années 70, on commence à s'intéresser à la figure du collabo. Et les historiens cherchent à documenter cette France de Vichy.
Dans tout pays occupé, dans tout pays où il y a un pouvoir trop fort, c'est naturel que des gens se rangent du côté du manche. Mais ce qu'il y avait de plus en France, c'est la caution morale. Pétain était un grand chef militaire, son patriotisme ne pouvait être suspecté a priori.
Mais tu parles en connaissant la fin de l'histoire, tu as fait des études et après tant d'années... Au jour le jour, c'est bien autre chose.
Mais au moment où on sonde les frontières de la morale dans la France occupée, voilà que paraît un essai, en 1981, écrit par Philippe Muret, un intellectuel inquiet de la déliquescence du monde occidental. Eh bien, voici ce que Muret raconte dans son livre.
Dans cette histoire tragique de la collaboration, on l'a situé parmi les écrivains de droite, etc. Je crois qu'il faut situer Céline là où il se place, à mon avis, tout à fait naturellement, c'est-à-dire dans le grand mouvement qui a commencé à la fin du 19e siècle, des avant-gardes.
Alors, sans procès d'intention, si on suit le raisonnement de Philippe Muret, le nazisme, idéologie dans laquelle Céline s'est reconnue dès 1937, serait donc un mouvement d'avant-garde. Compliqué.
Alors, les avant-gardes, qu'est-ce qu'elles proposent ? Qu'est-ce qu'elles ont toujours proposé ? Eh bien, elles partent en guerre contre la tradition. Elles proposent la table rase. Elles proposent le retour à zéro.
Cette petite musique sur Céline, écrivain avant-gardiste, a eu des conséquences positives pour lui dans les années 80.
Il y a 12 biographies de Céline, il y a des tas de lectures sur disques de Céline. Lucchini est le plus célèbre, mais il y a eu Balavoine, etc. Donc au fond, ça devient un auteur pour acteur. Et donc là, évidemment, vous avez beaucoup plus d'auditeurs que de lecteurs. Bon. Alors, son statut va évidemment changer. Bon, ça devient une littérature à la bonne française, quoi.
Tu les crois malades ? Ça gémit, ça rote, ça titube, ça pustule.
Fabrice Lucchini, 1988.
Tu veux vider ta salle d'attente ? Instantanément, même de ceux qui s'en étranglent à ramener les glaviots. Propose un apéro gratuit en face, propose un coup de cinéma, tu vas voir combien qu'il t'en reste. S'ils viennent te relancer, c'est d'abord parce qu'ils s'emmerdent, hein, t'en vas pas un la veille des fêtes. Au malheur, on retient mon avis, Ferdinand, c'est l'occupation qui manque, c'est pas la santé. Ce qu'ils veulent, c'est que tu les distrais, les émoustilles, les intrigues avec leurs renvois, leurs gaz, leurs craquements. Que tu leur découvres des rapports, des gargouillages, des fièvres, des inédits. Que tu t'étendes, que tu te passionnes, c'est pour ça que t'as des diplômes.
Ainsi, les années 80 offrent à Céline un nouveau statut, celui d'un grand écrivain français, figure subversive de la pop culture. Et Philippe Muret enfonce le clou.
Par son écriture, puis par les pamphlets, Céline s'inscrit dans le mouvement des avant-gardes. Au fond, il pousse jusqu'au bout la vocation des avant-gardes qui est de partir en guerre contre la tradition, et lui, il s'attaque directement à la source de toute tradition, et il s'en prend à ceux chez qui cette tradition s'est déposée, à savoir les juifs.
L'ennemi de la tradition. Voilà la posture célinienne qui justifierait les pamphlets antisémites. C'est pour le moins très vaseux. J'ajouterais simplement que Louis-Ferdinand Céline avait la nostalgie du monde d'avant, un esprit réactionnaire. Mais avec son discours, Philippe Muret veut faire passer une idée à propos de Céline.
Au fond, mais là on manquera de temps, c'est toute la question de la représentation du peuple.
Philippe Roussin.
C'est-à-dire on ne parle pas encore de populisme, mais au fond, c'est Céline est le seul qui a sorti la langue de son académisme. Par l'argot, je dirais que c'est le Céline des années 30 qui revient de Voyage au bout de la nuit ou de Mort à crédit. Il y a un certain anti-intellectualisme dans tout ça, c'est évident. Hein, ça me paraît évident.
Céline serait donc au service du peuple. Bien, mais tout dépend de quel peuple on parle.
Dans le cas de Céline, c'est intéressant parce que c'est avec le Front populaire qu'idéologiquement il se retourne. C'est-à-dire qu'au fond, ce peuple, qui est un peuple au fond pacifique, qui est un peuple qui arrive dans les assemblées parlementaires avec ses représentants, c'est là où le basculement se fait. C'est-à-dire, c'est pas mon peuple. C'est pas mon peuple.
C'est en venant chez vous tout à l'heure, j'ai traversé la manif.
Leur manif ?
Oui, les socialo-communistes, le populo, la lie de la terre. J'ai fait le détour exprès. J'étais fasciné. Les hommes, les femmes, les enfants, tous tendus vers un seul but, nous tuer.
Le peuple républicain et démocratique, qui a porté Léon Blum au pouvoir, n'était pas le peuple de Louis-Ferdinand Céline. Ça, c'était le mauvais peuple.
C'est un raz-de-marée, mon vieux. Ce dimanche-là fera date dans l'histoire de France. Ils ont tous voté à gauche, mais à gauche.
Par ailleurs, dans les années 80, est également apparu un autre outil pour réhabiliter Céline. On en a fait l'égal de Marcel Proust. Grégoire Kaufmann est historien.
Placer sur un pied d'égalité l'œuvre de Proust et celle d'un Céline, c'est une manière de brouiller les frontières et de sombrer dans une forme de relativisme et de gommer encore une fois toute une partie de l'antisémitisme célinien. C'est une stratégie des partisans de Céline qui leur permet de blanchir à bon compte leur plus grande admiration littéraire, Céline.
Oui, oh, Proust est un grand écrivain, c'est le dernier, c'est le grand écrivain de notre génération.
Louis-Ferdinand Céline, au micro de Jean Guénaud. 1960.
Ah,
avec vous, moi, je pense.
C'est un. Il disait autrement, lui.
Mais bien sûr.
Il n'avait pas beaucoup de style, d'ailleurs. Il était malade. Le Proust était maniaque. C'est-à-dire qu'au fond, il n'était pas bien dans la vie. C'est l'histoire de tous les gens qui écrivent. C'est une maladie.
Que dire d'autre de ce parallèle entre Proust et Céline ?
Écoutez, moi j'ai vu s'installer cette espèce de lieu commun, de doxa. Je trouve que c'est assez douteux. C'est un procédé assez douteux, c'est un parallèle assez douteux. Et puis c'est quand même beaucoup de paresse intellectuelle. Assez douteux parce que ça réduit toute la littérature romanesque du XXe siècle à deux auteurs. On construit un face-à-face en le justifiant par la différence des styles. Mais au bout du compte, c'est un écrivain antisémite et un écrivain juif. Bon, je trouve que c'est pas très gentil pour Camus, Aragon, Beckett, Sartre, Malraux. C'est un faux face-à-face, je crois. C'est un faux face-à-face.
En conclusion de cette première partie, ayez en tête qu'à la fin des années 80, Céline est devenue un écrivain génial, dont on déplore l'antisémitisme de plume.
La démocratie, partout et toujours, n'est jamais que le paravent de la dictature juive.
En 2024, il est important de rappeler qu'il fut aussi un antisémite d'action.
J'entends par juif tout homme qui compte parmi ses grands-parents un juif. Un seul.
Je dirais qu'il n'est pas étranger à la poussée de l'antisémitisme en France à la fin des années 30. Et je pense qu'il n'est pas étranger non plus au second statut des Juifs, c'est-à-dire celui de 41, je ne parle pas de celui de 40. Second statut des Juifs qui paraît après les beaux draps, où il est très dur, c'est-à-dire qu'il va plus loin que le premier statut des Juifs. Donc voilà.
Lettre de Louis-Ferdinand Céline à Thorvald Michelsen, son avocat danois, le 5 mars 1946. Aurais-je inventé l'antisémitisme ? L'antisémitisme est aussi vieux que le monde, et le mien, par sa forme outrée, énormément comique, strictement littéraire, n'a jamais persécuté personne.
Écoutez la suite, ça en dit long.
Enfin, et surtout, il n'y a jamais eu de persécution juive en France. Les juifs ont toujours été parfaitement libres, comme je ne le suis pas, de leurs personnes et de leurs biens dans la zone de Vichy pendant toute la guerre. Dans la zone nord, ils ont dû arborer pendant quelques mois une petite étoile. Quelle gloire ! Je veux bien en arborer 10. On a confisqué quelques biens de juifs, avec quel chichi, qu'ils ont récupéré depuis lors. Et comment ?
Pour amorcer notre deuxième partie, j'aimerais qu'on prenne le temps d'écouter à nouveau l'essayiste Philippe Muret dans sa stratégie de réhabilitation célinienne. Nous sommes toujours en 1981. C'est une interview de Christine Guémé sur France Culture. Et nous avons choisi d'en diffuser un extrait assez conséquent. C'est important.
Il était entendu, il y a quand même 30 ans par exemple, que les gens qui lisaient Céline n'étaient pas du tout des fascistes, naturellement, ça paraissait évident. Et il était entendu, au fond, d'une certaine manière, que bon, effectivement, tout le monde pouvait lire Céline sans être, disons, étiqueté d'extrême droite, de méchant, de pas beau, d'affreux.
Il était surtout entendu que les gens qui lisaient Céline étaient des adultes.
Étaient des adultes. C'est-à-dire qu'ils savaient faire la part des
maintenant,
choses.
Maintenant, la question ne semble plus si claire.
Oui.
Donc, il faut avertir les enfants, c'est-à-dire tout le monde maintenant, parce que nous sommes dans une époque d'infantilisation progressive, il faut avertir les enfants que Céline est dangereux. Bien entendu, Céline est dangereux. Mais
oui.
Un lecteur adulte...
C'est faire la part des choses, tout de même.
Voilà.
Ne se font pas nécessairement avec ce qu'il dit. Parce que si on dit Céline est dangereux, c'est-à-dire que si on le lit, on devient antisémite. Quand on lit un tract de Le Pen, on devient lepéniste. Quand on lit un tract intégriste, on devient intégriste. C'est-à-dire, on devient ce qu'on lit. Et alors, c'est l'hystérie générale, ça.
Il y a une généralisation de l'attaque contre les grands hommes du passé. Une sorte de multiplication, une précipitation même de ce mouvement. Miller est misogyne, on dénonce tous les grands, notamment les grands écrivains du passé, on va chercher leur tare secrète et on les rejuge en fonction des valeurs d'aujourd'hui. Et ce mouvement, jusqu'ici, assez curieusement, avait plus ou moins épargné Céline. Tout simplement parce que Céline était officiellement coupable.
Oui.
Ce qu'il est. D'avoir écrit ces trois pamphlets antisémites.
Et que personne ne l'a jamais nié.
Et que personne ne le nie. Et surtout pas ses meilleurs admirateurs. Là, le mouvement est intéressant parce que, pour la première fois, me semble-t-il, Céline est dénoncée entièrement en tant qu'écrivain et on lui dénie, de manière à pouvoir le faire disparaître le plus vite possible, sa qualité de romancier.
D'abord, précisons que nous sommes tous des adultes et qu'en effet, on peut lire Céline sans être un fasciste, évidemment. Mais on ne peut pas réduire le problème Céline à trois pamphlets antisémites. C'est bien plus compliqué. Et ces pamphlets, justement, sont au centre d'une polémique depuis 2018. Doit-on ou non les rééditer ?
Alors déjà, la justice est claire, on peut les rééditer, ils n'ont jamais été interdits à l'époque.
Pascal Horry, historien et académicien.
C'est Lucette Almanzor qui s'y est opposée, et sans doute quelques amis de Céline qui ont dit qu'il ne fallait peut-être pas trop en rajouter. Et puis le temps passant, oui, il faut évidemment publier. On a publié Mein Kampf avec je ne sais combien de notes en bas de page. Donc il faut publier, bien entendu. D'ailleurs, ne pas publier, c'est s'avouer presque vaincu à l'avance. C'est-à-dire que ce serait tellement brillant, tellement dangereux que... Non mais ça se retourne contre le censeur, ça. Hein. Alors après, dans quelles conditions est-ce qu'on publie ? Personnellement, grâce à Régis Tettamanzi, en 1993, en présence de Serge Klarsfeld, j'avais connaissance d'une analyse très fine de Bagatelle pour un massacre, alors qu'on ne pouvait pas, en théorie, rééditer l'ouvrage. C'était très habile, parce que c'était des citations longues qui conciliaient le droit de citation avec les interdictions de Madame Céline, hein, j'insiste là-dessus. Donc voilà, il faut évidemment publier, il faut évidemment annoter. La damnation de mémoire, ça se termine généralement mal, c'est-à-dire que la mémoire refoulée revient en force. Donc publions Céline et éditons-le intelligemment.
Les pamphlets, c'est uniquement une affaire financière, hein, d'abord. C'est idéologique, mais c'est financier.
Philippe Roussin.
C'est-à-dire que tout Céline tombe dans le domaine public en 2031. Donc si vous pouvez faire une édition dite scientifique avant 31... c'est autant d'argent qui n'est pas perdu. Puisque actuellement, les pamphlets antisémites, au fond, sont édités par des imprimeurs romains. Hein, donc l'argent ne va pas aux ayants droit.
Il y a deux ayants droit. L'avocat François Gibault et Véronique Chauvin, amis l'un et l'autre de Lucette Destouches. Ils ne font donc pas partie de la famille. Étrange. Mais en 1962, sachez que Colette Turpin, la fille de Céline, très mal renseignée sur la succession, refuse l'héritage de son père décédé par crainte de dette. La famille perd donc les droits sur l'œuvre de Céline. Alors, retournons au cimetière de Meudon, en compagnie de Martine Abbat et de Guillaume Grenet, l'arrière-petit-fils de Céline. Que pense-t-il de la réédition des pamphlets ?
La première motivation de notre action et tout ce qu'on est en train de faire en ce moment pour justement récupérer le droit moral et le droit de divulgation sur l'œuvre de Céline, c'est que de 1961 à 2019...
À la mort de Lucette.
À la mort de Lucette. En fait, c'est Lucette qui, pendant 50 ans ou 60 ans, a donné toutes les garanties que les pamphlets ne seraient jamais réédités, comme Céline le voulait lui-même et comme il l'avait dit à de nombreuses reprises. Donc Lucette a témoigné de cette volonté et a fait respecter ce choix, malgré sûrement beaucoup de tentations ou de demandes de différentes personnes. Elle a fait des déclarations et des interviews dans la presse, notamment à Jean-Claude Silberstein, dans un article, je crois que c'était en 78, dans lequel elle donnait toutes les garanties sur le fait que les pamphlets ne seraient jamais réédités. Et à l'âge de 105 ans, donc 2 ans avant sa mort, on a appris un peu avec stupeur qu'elle avait donné son accord pour republier les pamphlets. Donc c'est là qu'on a commencé à se poser beaucoup de questions. Donc on est nombreux dans la famille, comme vous l'avez compris, et tout ne s'est pas fait en un jour, mais c'est là qu'on a commencé à se dire qu'il fallait qu'on reprenne les choses en main, et à la mort de Lucette, il nous a semblé tout à fait naturel et normal que notre famille récupère l'exercice du droit moral sur l'œuvre de Céline. On est les seuls et uniques descendants, on est les descendants directs, et il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas... veiller à ce que la volonté et que l'œuvre de Céline soit respectée. Voilà.
Le droit moral, c'est quoi exactement ?
Alors, le droit moral, c'est une notion qui permet justement que les descendants d'un artiste ou d'un écrivain puissent contrôler ce qui est fait de son œuvre. Ça s'accompagne également du droit de divulgation. C'est une autre notion qui permet d'interdire notamment la publication de certains ouvrages, de protéger l'œuvre et protéger un artiste.
Les descendants directs de Céline refusent la réédition des pamphlets antisémites. Qu'en pensait Philippe Solers, grand admirateur de Céline, en 1981 ?
Je suis au contraire pour qu'on lise Bagatelle pour un massacre et pour qu'on voit ce qui se passe dans toutes les têtes, mais sous une forme atténuée. Quand les gens vous regardent avec un bon sourire et vous font une petite allusion de biais sur les juifs, sur ceci, sur cela, là, c'est beaucoup plus dangereux, à mon avis, que quelqu'un qui trépigne et qui éructe, n'est-ce pas, et qui bave et qui dit ce qu'il y a dans les têtes, n'est-ce pas? Les criminels sont plutôt des gens froids qui ont des petites allusions en coin. N'est-ce pas, mais qui peuvent tuer sans problème. Je suis sûr que Céline n'aurait pas mis la main à la patte, n'est-ce pas? Mais enfin, sa patte, malheureusement, au niveau de ce qui s'écrivait, a pu contribuer à servir une perversion considérable de gens qui probablement n'avaient rien à voir avec lui. Mais enfin, c'est un fait que quand même, il est allé dans ce sens-là, c'est-à-dire avec une thèse importée du dehors, qu'il a prise à un moment donné comme centre de la pensée universelle. C'est la thèse nazie, il n'y a pas de doute.
Moi, je suis partisan, bien sûr, d'une réédition de ces textes. Et il faut tabler sur l'intelligence des lecteurs.
Régis Tétamanzi, professeur de littérature.
Éclaircir ces textes, les expliquer au sens étymologique. Hein. Expliquer, ça veut dire déplier. Hein. Déplier les allusions, déplier les noms qui sont mentionnés, les citations, etc. Dire d'où elles viennent. Tout ça, ça permet de comprendre ce qu'il y a dedans. Hein. Il ne s'agit absolument pas, bien entendu, de soutenir de quelque manière que ce soit l'idéologie abominable qu'il y a dans ces textes. Il s'agit juste de la donner à lire pour comprendre ce qu'il y a dedans, mais pour comprendre tous les aspects. Voilà. La propagande, qui existe, clairement, mais aussi tout ce qu'il y a autour.
On constate qu'aujourd'hui, il y a un débat au sein de la communauté des historiens à propos de la réédition des pamphlets antisémites. Certains y sont favorables, d'autres pas.
Les rééditions de textes antisémites actuellement, dans les, je sais pas, les 5 dernières années, il y a une façon de revisiter la bibliothèque antisémite qui est très très impressionnante.
L'historienne Anne Simonin.
Et je n'aime pas la recréation d'une valeur autour de cette bibliothèque. Il se trouve que là, je voulais vérifier la note en bas de page de l'École des cadavres. J'ai dû mettre 2 minutes pour trouver le texte sur Internet.
Très facile.
Voilà. Donc, si vous voulez, tous les pamphlets de Céline sont parfaitement disponibles. C'est bien ça le problème, ou c'est pas ça le problème. Et on me dirait, on fait une édition commentée sur Internet, sans aucune autre valeur que la valeur intellectuelle. Si quelqu'un veut passer du temps à faire ça, moi, je serais absolument pas contre. Ce contre quoi je suis, c'est tous ces textes qui sont réédités par des éditeurs privés et qui, en quelque sorte, réaccordent de la valeur, ne serait-ce que parce qu'ils les passent sous leur couverture. Et je pense qu'il n'y a pas de valeur à reconnaître à ces textes. Et à partir du moment où vous leur mettez un prix, vous considérez que ce sont des textes publiables. C'est ça qui me déplaît très singulièrement. Et donc je pense que ce ne sont pas des textes publiables, mais que, comme ils existent sur les réseaux sociaux, si quelqu'un décidait d'en faire une édition scientifique accessible à tous et gratuite, évidemment.
En quoi est-ce utile de rééditer des textes d'une telle violence ?
Odile Roinette, historienne.
Dans le contexte très compliqué d'intolérance à l'égard de la communauté juive qui monte. Donc je crois que maintenant je suis pour l'instant vraiment très réticente à l'idée de voir ces textes reparaître.
De Noël m'a repassé des épreuves de Bagatelle pour un massacre, c'est grandiose. Haïr les juifs à ce point-là, c'est de l'art.
Cette troisième partie débute sur l'antenne de France Inter.
France Inter.
Le 11 août 2021.
Hélène Roussel.
Il est 8h20.
Le 6-9.
Ce matin,
On vous raconte l'histoire d'un trésor inestimable, à peine croyable, des milliers de feuillets inédits signés de la main de Louis-Ferdinand Céline. Dans ses manuscrits, on parle notamment du roman qui devait former un triptyque avec Mort à crédit et Voyage au bout de la nuit, mais aussi d'un conte médiéval ou encore de la correspondance avec l'antisémite Brasillach. Chers auditeurs, amis lecteurs, vous êtes fans de l'écrivain ou pas? Racontez-nous ce que cette découverte signifie pour vous. Irez-vous l'acheter s'il sort un jour, sans doute chez Gallimard? N'hésitez pas, on vous attend au standard 01 45 24 7000.
Au cœur de l'été 2021, ressurgit une malle entière de feuillets inédits de Louis-Ferdinand Céline.
J'ai été épuré. On m'a brûlé 7 manuscrits. Alors maintenant, motus.
Des feuillets mis à l'abri en 1944, rappelez-vous, par le résistant gaulliste Yvon Moranda. Une histoire inouïe.
Déjà, l'histoire est totalement rocambolesque.
Philippe Roussin.
Puisque celui grâce à qui on peut lire les manuscrits, c'est lui-même un journaliste, Jean-Pierre Thibaudat, mais c'est un critique, très bon critique théâtral, bon, mais qui est totalement extérieur au milieu célinien. Donc, si vous voulez, ce sont des manuscrits dont les Céliniens savent qu'ils existent, qu'ils ont cherché pendant 40 ans, et puis ça ressort du très mauvais côté, ça ressort du côté de la résistance. Donc déjà, bon, ça pose un problème. Donc déjà, l'histoire est totalement invraisemblable. Ensuite, lui voulait donner tout ça à la Nation, à l'IMEC ou à la BNF. Bon, alors les ayants droit, au lieu d'être contents, lui font un procès pour recel.
La plainte pour recel, déposée contre Jean-Pierre Thibaudat par les deux ayants droit, a été classée sans suite. Néanmoins, Thibaudat a un regret qu'il nous a confié.
J'ai un regret, c'est que ça reste au secret des coffres de banque, ces manuscrits. C'est ça qui me gêne aujourd'hui. Moi, je trouve que ces manuscrits n'appartiennent pas aux ayants droit, qui ne sont même pas de la famille, de toute façon. Ils appartiennent à la littérature française. Donc, ils devraient être en accès libre pour des chercheurs, pour des étudiants qui travaillent sur ces choses-là, pour certains journalistes et tout, ou des gens comme vous qui font des émissions. Ça devrait être ou à la Bibliothèque nationale, ou bien à l'IMEC, là où il y a des grands fonds Céline. Non, c'est dans un coffre de banque. Ce qui fait que quand des chercheurs se demandent ces textes de guerre, est-ce que ce ne sont pas des chapitres supprimés du Voyage au bout de la nuit? Ben peut-être. Aujourd'hui, on peut dater de façon extrêmement précise les dates d'un manuscrit, par l'encre et par le papier. Mais ça n'a pas été fait. Et donc c'est ça, mon regret aujourd'hui, il est là.
Retournons à Meudon et découvrons au micro de Martine Abbat ce que pense Guillaume Grenet, le descendant de Louis-Ferdinand Céline, de ses manuscrits retrouvés.
La découverte de la malle avec les manuscrits de la rue Girardon là, en 2020-2021 en fait, a donné lieu à des livres qui ont eu un gros succès en librairie, c'est « Guerre, Londres, Crogold ». Et puis des rééditions de la Pléiade, etc., qui, en fait, posent la question de savoir est-ce que ces livres sont des vrais romans de Céline? Est-ce que ce sont des brouillons? Est-ce que ce sont des manuscrits? Est-ce qu'il aurait voulu les publier ou pas? Voilà, c'est toute la question qu'on peut se poser aujourd'hui.
Votre grand-mère Colette, vous pensez qu'elle aurait aimé savoir que ces documents existaient et
Bien sûr. Bah, elle a été privée plus que n'importe qui, oui. C'était des manuscrits de son père, c'était une partie de son histoire, c'était justement toute sa vie pendant la Première Guerre mondiale, ses blessures et ainsi de suite.
C'est aussi en sa mémoire, en la mémoire de Colette, que vous agissez?
Ah, bien sûr, oui, bien sûr. Moi, c'est la personne la plus présente pour moi dans toute cette histoire. C'est ma grand-mère qui était oubliée. Et d'ailleurs, on constate très souvent que Colette n'apparaît jamais. Beaucoup de biographies l'oublient. Il y a beaucoup de gens qui pensent encore, même des Céliniens, même des gens qui sont très connaisseurs de Céline et qui ne savaient pas qu'il avait une fille. La fille de Céline, il n'y en a qu'une et c'est bien elle.
En 2022, les éditions Gallimard ont édité un premier texte, issu de cette malle au trésor. Un livre intitulé « Guerre ». Le retour en librairie de Louis-Ferdinand Céline est couronné d'un immense succès. Ce qui conduit à se poser une question sur la démarche récente de Guillaume Grenet et sa famille de récupérer le droit moral sur l'œuvre de Céline.
On pourrait se dire, bah tiens, c'est aussi parce que ça vaut beaucoup d'argent, en fait, toute cette malle, tous ces manuscrits qui sont ressortis.
Ça vaut beaucoup d'argent, mais ça vaut rien par rapport au fait d'interdire les pamphlets. Voilà, donc, le contenu de la malle, les manuscrits, ils valent une somme très importante. Évidemment, ça rapporte beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent en jeu. Nous, c'est pas à premier lieu notre demande. On souhaite vraiment récupérer le droit moral et le droit de divulgation sur l'œuvre de Céline.
Et
gérer tout ce qui est fait, et pour notamment contrer tout projet éventuel de pamphlet, puisque c'est quand même d'actualité. On a relu il n'y a pas longtemps dans la presse qu'une version scientifique des pamphlets était à l'ordre du jour. Voilà. Je pense que l'actualité nous pousse à penser qu'il faut être vraiment très très raisonnable sur ce sujet-là. Et la position de notre famille, qui est vraiment le fil conducteur de notre démarche, c'est vraiment de faire barrage aux pamphlets autant qu'on pourra et aussi longtemps que sera possible.
Nous arrivons doucement au terme de cette série consacrée à Louis-Ferdinand Céline. Et pour amorcer notre conclusion, une première question. Pour quelle raison Louis-Ferdinand Céline occupe-t-il encore une place si prégnante en 2024 ? Grégoire Kaufmann.
Comment expliquer que Céline soit toujours vivant parmi nous ? Eh bien, c'est simplement le style. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il dynamite la littérature contemporaine avec Voyage au bout de la nuit. Et évidemment, on ne peut pas minorer ce phénomène, ni faire comme si il avait été absent de l'histoire littéraire, ne serait-ce parce qu'il a influencé d'autres écrivains après lui et qu'il arrive dans le XXe siècle en littérature comme un auteur incontournable.
Moi, je trouve que le plus grand écrivain du monde, c'est Louis-Ferdinand Céline.
L'écrivain Jack Kerouac sur Radio-Canada, 1959.
Que son vrai nom, c'est Destouches. Il est un docteur. Docteur Destouches. Parce que il a écrit des grands... Comment on appelle ça? Épiques.
Épopées.
Hein?
Épopées.
Des grands épopées?
C'est ça.
De la vie moderne. Mieux que tous les autres.
Ce parfum de soufre, également, conforte l'intérêt contradictoire que le public éprouve pour Céline. Hein. Comme si il y avait une forme de fascination révulsée pour le personnage, mais fascination quand même.
Qu'on le veuille ou non, en effet, la fascination perdure. Deuxième question, que peut-on souhaiter à l'œuvre de Céline dans les années qui viennent ?
Bon, de ne pas disparaître.
Régis Tétamanzi.
Mais ça, j'ai confiance, parce qu'il y a toujours des gens... Il y a toujours des lecteurs qui vont se retrouver là-dedans. Il y a toujours des lecteurs pour qui l'histoire repasse pas les plats, c'est une phrase qui parle. Pour qui invoquer sa postérité, c'est faire un discours aux asticots, c'est une phrase qui parle. Voilà. Pour qui l'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches, c'est une phrase qui parle. Voilà.
Cette série s'intitule Louis-Ferdinand Céline, le voyage sans retour. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce titre ?
C'est un titre un peu négatif, et c'est frappant parce que souvent, dans les émissions sur Céline, on a des titres négatifs, ce que personnellement je trouve un peu dommage, parce que c'est un écrivain qui n'est pas du côté de la négativité, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire.
Mais vous auriez pu imaginer qu'on choisisse un titre positif ?
Oui, bien sûr.
Quel titre, par exemple ? C'est une question très sincère.
Louis Ferdinand Céline, au-delà de la nuit.
Voyons à présent ce que pense l'historienne Odile Roinette de notre titre, Le voyage sans retour.
Ça m'inspire peut-être deux choses. D'abord, l'idée qui me semble-t-il est centrale pour le personnage Céline, de la fuite en avant. Le voyage sans retour, c'est aussi une fuite en avant des personnages même des romans de Céline, qui sont tous ballottés, chaotés, pris dans des expériences qui les emportent et qui les détruisent. L'imaginaire célinien est absolument saturé par cette idée de la fuite en avant, de l'errance, de l'absence de sens. Et ça m'inspire aussi le fait que, en fait, Céline n'est jamais sortie de la guerre. Il n'est jamais sorti de la guerre. Il le dit d'ailleurs. Hein. Et ensuite, même la Seconde Guerre mondiale vient réactiver, bien évidemment, tout le traumatisme de la Première Guerre mondiale et aussi, évidemment, nourrir toutes ces théories haineuses, bien sûr. Donc, on ne sort pas de ce qui s'est passé, de ce qu'il a vu et de ce qu'il a expérimenté en 1914. Et l'expérience de la Grande Guerre est celle à partir de laquelle tout s'ordonne. Donc, il y a un début, mais il n'y a pas de fin. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de sens pour lui. Ou alors, il y a un sens, mais ce sens, c'est la destruction de l'humanité qui court à sa perte, et en particulier de la race blanche, hein, puisque c'est une de ses grandes obsessions, qui est menacée par les périls, toutes sortes de périls, et en particulier le péril juif, selon lui, mais aussi le péril jaune, le péril noir. Enfin, il y a voilà, une vision absolument apocalyptique, en fait, du monde et de la vie.
En écho à cette vision apocalyptique de la vie, j'aimerais aussi qu'on écoute un psychanalyste, Jean Gilibert, interviewé par Michel Pollack en 1969. Jean Gilibert nous éclaire sur la part sombre de Louis-Ferdinand Céline.
Chez Céline, le racisme, ce n'est que lui projeté. C'est-à-dire qu'il ne peut pas supporter qu'il y ait un étranger à lui.
Oui.
C'est moi égal moi, mais à condition que moi je sois tout blanc et que lui, l'autre moi, soit tout noir. Il n'a jamais pu supporter, Céline, le métissage. Il est pour la pureté des choses, la pureté des races. Le métissage, au sens profond du mot, c'est quelque chose qu'il n'a jamais pu supporter. Car il dit les Juifs, c'est vrai, et à un certain moment donné de l'histoire, et ça a été grave, et meurtrier, mais il dit aussi, dans le Juif, il y a le nègre qui passe.
Oui, c'est vrai.
Vous voyez, il y a le nègre, il y a le Juif, il y a le franc-maçon, il y a le Chinois, pardonnez-moi le nom, il y a tout ce qui est ailleurs, étranger, extérieur, et qui pourrait tout d'un coup envahir sa personnalité.
Découvrons maintenant la conclusion de l'historien Pascal Horry. Céline a-t-il entrepris un voyage sans retour ?
Alors je pense que ça a été un voyageur, un aventurier, y compris la manière dont il devient médecin, très voyageuse. Voyageur à travers la collaboration, voyageur en exil au Danemark, Sigmaringen et compagnie. Oui, mais il y a un retour. Il y a un retour, c'est-à-dire que il est lu mondialement.
Traduire, c'est trahir, ça ne fait aucun doute. Par exemple, dans la version anglaise, ça donne les mains qui fouillent dans les poches. Mais ça n'a rien à voir avec ce que Céline a écrit. Il a écrit... Les mains partout, au cul, aux poches.
Il n'est pas lu exclusivement dans une perspective documentaire. Il y a un ton célinien qui vraisemblablement nous touche parce que il touche quelque chose des profondeurs. Et alors là, je vais raisonner comme Céline, c'est-à-dire de l'espèce humaine.
60 ans après la mort de Céline, un important corpus d'archives détenu par les deux ayants droit, demeure inaccessible aux chercheurs et qui permettrait pourtant de mieux éclairer l'œuvre et l'homme.
Les ayants droit ne servent plus Céline.
Philippe Roussin.
Ce qu'ils serviraient aujourd'hui, ce serait d'éteindre le contentieux entre Céline et la nation. Donc je pense que tous ces manuscrits, là, ces 6000 feuillets, devraient être donnés à la Bibliothèque nationale. C'est le meilleur service qu'on pourrait rendre à Céline. Et malheureusement, ils n'en sont pas là, c'est-à-dire à la fois pour des questions de revanche, des questions financières, parce que ça se vend. Hein. Et donc, je pense qu'ils desservent Céline.
On n'en a pas fini avec Louis-Ferdinand Céline.
Anne Simonin.
Peut-être qu'il y aura d'autres générations. Peut-être qu'il y aura des gens chez les Céliniens qui comprendront qu'ils doivent léguer leur collection aux collections publiques. Et pour moi, c'est vraiment, il y a une matérialité très importante de l'approche de Céline. Si quelqu'un pouvait comprendre ça, eh bien, ce serait un formidable progrès. Parce que je pense qu'à travers Céline, c'est aussi ce qui s'est passé d'absolument décisif dans ces années 40-44. On vous dit qu'elle s'éloigne parce que les gens qui étaient des survivants ne sont plus là, alors que ça reste quand même pour moi la matrice de notre modernité.
Pour clore cette série consacrée à Louis-Ferdinand Céline, que dire ? D'abord, retenez que Louis Destouches n'est sans doute jamais sorti de la Première Guerre mondiale. Et comme des milliers de soldats, français et allemands, il en a subi le préjudice, c'est certain. Mais plutôt que de cheminer vers une fraternité humaine, il s'est replié sur lui-même, ressassant sans cesse ses préjudices, cherchant à débusquer des responsables qui n'existaient pas, mettant son immense talent littéraire au service des passions tristes et d'un racisme forcené.
Qu'est-ce qui gagne, hein, à présent ? Qu'est-ce qui tire les marrons du feu comme après toutes les guerres ? Les mêmes, toujours. Mais vous savez ça mieux que moi, n'est-ce pas ? Ça suffit, maintenant.
Enfin, depuis sa mort, certains gardiens du temple célinien cherchent à le dédouaner au nom d'une idéologie, celle de la suprématie des uns sur les autres. Pour finir, comme un remède au désespoir célinien et à sa haine des autres, je vais laisser les mots de la fin à un autre écrivain français du XXe siècle, Albert Camus, prix Nobel de littérature en 1957. Il nous propose un autre chemin. Son discours percute notre présent et, comme d'habitude, je vous laisse juge.
Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue, où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire, mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer, à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Devant un monde menacé de désintégration, elle sait qu'elle devrait, dans une sorte de course folle contre la montre, restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude, réconcilier à nouveau travail et culture, et refaire avec tous les hommes une arche d'alliance. Il n'est pas sûr qu'elle puisse jamais accomplir cette tâche immense, mais il est sûr que partout dans le monde, elle tient déjà son double pari de vérité et de liberté, et à l'occasion, sait mourir sans haine pour lui. C'est elle qui mérite d'être saluée et encouragée partout où elle se trouve, et surtout là où elle se sacrifie. Et c'est sur elle, en tout cas, que certains de votre accord profond, je voudrais reporter l'honneur que vous venez de me faire.
Louis-Ferdinand Céline, Le voyage sans retour. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Juliette Médevielle. Lecture, Charles Berling. Reportage, Martine Abbat. Assistance éditoriale, Irène Menahem, assistée de Fanny Petit. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer et Cédric Diallo. Louis-Ferdinand Céline, Le voyage sans retour, est un podcast original de France Inter.